Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Agitation anglophone au Cameroun, des tirs ont été entendus ce mercredi à Boya, chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest, théâtre avec celle du Nord-Ouest voisin d'un violent conflit armé entre les séparatistes anglophones et les forces de sécurité camerounaises. Il y a eu beaucoup de tirs ce matin à partir de 5h heure locale, a déclaré à l'AFP un habitant de Boya. Selon cette source, l'incident a commencé quand une cinquantaine de séparatistes armés sont entrés dans la localité et ont incendié 3 voitures. Des militaires sont arrivés par la suite et ont mis en fuite les assaillants quelques heures plus tard. Depuis le début du conflit armé fin 2017, les combattants séparatistes entrent régulièrement à Boya, mais sans jamais avoir réussi à s'en emparer. Boya est la ville dont ils veulent comme capitale de l'État qu'ils souhaitent créer, l'Ambazonie. Au Tchad voisin, le groupe armé opposé à N'Djamena, qui est entré début février dans le nord du pays à partir de la Libye, affirme être toujours en territoire tchadien, malgré l'intervention militaire de la France. Mais ses objectifs et son importance restent encore flous aujourd'hui. Le groupe en question, l'UFR, l'Union des Forces de la Résistance, dirigé par Timan Erdimi, neveu du président tchadien Idriss Déby Itno, affirme être entré au Tchad avec 3 colonnes distinctes de pick-up armés, dont une a été frappée dimanche par l'aviation française à la demande des autorités tchadiennes. Lundi, la France a révélé que la colonne visée par les Mirage 2000 français comportait 40 pick-up qui avaient fait une incursion profonde à partir de la Libye. Violence en République centrafricaine, un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire de la Centrafrique a été paraffé mardi à Khartoum, au Soudan, relançant les espoirs de paix en RCA, pays meurtri par des années de conflit. Cet accord de paix, le 8e depuis 2012, a été obtenu samedi dernier, après une dizaine de jours de négociations à Khartoum sous l'égide de l'Union africaine. Le contenu de l'accord reste toujours inconnu jusqu'à présent. Il ne sera rendu public qu'après la signature proprement dite du document prévu à Bangui dans les prochains jours, selon les autorités centrafricaines. Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononce demain jeudi son discours annuel sur l'état de la nation dans un climat rendu électrique par l'approche des élections de mai et les scandales de corruption qui continuent à éclabousser le parti au pouvoir. Mise en perspective de Idrissa Senoudia.
Il y a un an, M. Ramaphosa avait profité de sa première grande allocution devant le Parlement pour annoncer un nouveau départ à son pays, quelques jours après la démission de son encombrant prédécesseur Jacob Zuma. Les promesses du nouveau chef de l'État sud-africain sur la relance de l'économie et la fin de la corruption avaient alors été saluées sur tous les bancs, une première depuis des années, alors que les allocutions de M. Zuma donnaient souvent lieu à des scènes de chaos dans l'hémicycle. Mais faute de résultats tangibles, la deuxième prestation de M. Ramaphosa devant les députés s'annonce moins consensuelle. Malgré d'ambitieux plans de mobilisation, l'économie sud-africaine continue à patiner et le chômage reste endémique. Le bilan de M. Ramaphosa s'annonce tout aussi mitigé dans la guerre engagée contre la corruption. S'il a remercié quelques-uns des ministres et des patrons d'entreprises publiques les plus sulfureux de l'ère Zuma, sont par le Congrès national africain ne parvient pas à se défaire des scandales. M. Ramaphosa se fait aussi observer de près à l'étranger. La presse vient de publier une note signée de 5 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, lui recommandant un engagement sans faille contre la corruption, faute de quoi aucun investisseur ne s'aventurera en Afrique du Sud.
Toujours concernant la lutte contre la corruption en Afrique du Sud, 5 personnes accusées du détournement de 105 millions d'euros ont été arrêtées ce mercredi à la suite des révélations fracassantes faites devant une commission d'enquête sur la corruption sous la présidence de Jacob Zuma. Parmi les personnes détenues figurent Patrick Gillingham, l'ex-directeur financier des services pénitentiaires, et Angelo Agrizi, un ancien dirigeant de la société Bossasa. Monsieur Agrizi a été le mois dernier le témoin vedette de la commission Zondo, chargée d'enquêter sur les scandales qui ont émaillé la présidence de l'ex-président Zuma entre 2009 et 2018. Angelo Agridi a raconté comment la société Boursassa avait obtenu de juteux contrats publics et la protection du pouvoir en accordant des pots de vin à des personnalités politiques et de hauts fonctionnaires proches du Congrès national africain au pouvoir. Les 5 personnes arrêtées aujourd'hui ont été déférés devant un tribunal de Pretoria pour corruption, blanchiment d'argent et fraude. Tous ont été libérés après leur comparution devant le tribunal après paiement d'une caution de 20 000 rands, soit environ 1 300 euros.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest maintenant, les chefs d'État du G5 Sahel, réunis pour un sommet mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso, ont redemandé un effort, notamment financier, de la part des Nations Unies, alors que 5 gendarmes ont été tués le même jour dans le nord du Burkina. Les chefs d'État plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies et réitèrent leur demande de placement de la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, soumis le communiqué final du sommet. Le chapitre 7 autorise le recours à la force, mais prévoit aussi des mesures si un État se trouve en présence de difficultés économiques particulières. Les 5 pays membres du G5 anti-djihadistes, à savoir Burkina, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, font partie des pays les plus pauvres au monde. Nigeria, des hommes armés ont tué 26 personnes dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, théâtre d'opérations de nombreuses bandes criminelles. C'est ce qu'annonce la police. 11 autres personnes ont trouvé la mort dans une attaque distincte dans le village de Bataouna, dans la région de Bukoyum, mais les circonstances restent floues en l'absence de réseau de télécommunications fonctionnelles et aussi parce que cette zone isolée n'est reliée au monde extérieur que par des routes en très mauvais état. Conflit au Soudan du Sud, le dirigeant rebelle du Soudan Sud, Riek Machar, prévoit de revenir à Djouba, la capitale, en mai, en application de l'accord de paix de septembre 2018, qui représente la meilleure chance de mettre un terme à la guerre. C'est ce que déclare l'émissaire de l'ONU pour le pays, David Shearer. Actualité aux États-Unis maintenant. Face au Congrès réuni au grand complet, le président américain Donald Trump s'est posé mardi en rassembleur pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Le président républicain a lancé un appel au compromis dans une allocution à la tonalité plutôt sobre, à l'exception d'un long passage sur l'immigration et les sans-papiers. Plus de détails avec Anna Albertson.
Si le président Donald Trump a une nouvelle fois affirmé que le mur à la frontière avec le Mexique serait construit, il n'a finalement pas, comme il l'avait laissé entendre, déclaré une urgence nationale, procédure exceptionnelle qui lui permettrait de contourner le Congrès. À 21 mois de la prochaine élection présidentielle, où il entend briguer un second mandat, le président républicain a mis en avant de très bons chiffres économiques et un marché du travail extrêmement dynamique.
After 24 months of rapid progress,
après 24 mois de progrès rapide, notre économie fait l'envie du monde entier. Nos forces armées sont les plus puissantes au monde de loin. Et les États-Unis. Une fois de plus, l'emportent au quotidien.
Members of Congress, the state of our union is strong.
Chers membres du Congrès, l'état de notre union est solide.
Le président américain a aussi profité de ce rendez-vous pour annoncer le lieu et la date de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui aura lieu les 27 et 28 février au Vietnam. Le 45e président des États-Unis a conclu son discours sur une tonalité rassembleuse. Nous devons choisir si nous nous définissons par nos différences ou si nous avons l'audace de les transcender. Fin de citation.
Conflit en Afghanistan, le gouvernement de Kaboul doit être inclus dans les discussions entre les États-Unis et les talibans, si l'on veut que les efforts en vue d'un accord de paix réussissent. C'est ce qu'a déclaré mardi un général américain. Mais les talibans considèrent le président afghan Ashraf Ghani et son gouvernement comme des marionnettes américaines. Rappelons que mardi à Moscou, les talibans ont rencontré des politiciens afghans ne faisant pas partie du gouvernement. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.